Bonjour, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM et vous écoutez Les Petits Camus.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous sommes avec une classe de première AGGSP, Géopolitique Sciences Politiques, du lycée Albert Camus de Bois-Colombes. Le thème du jour est la pièce de théâtre Big Mother de Mélodie Moret. Cette pièce innovante porte sur des sujets d'actualité tels que les théories du complot. Une théorie du complot est une théorie qui explique un événement résultant majoritairement d'une action planifiée et dissimulée d'une ou plusieurs personnes en vue de nuire à une ou plusieurs autres personnes. Pour aborder ce thème, nous allons accueillir en premier Irène, élève de première qui va nous présenter sa chronique sur la pièce de théâtre, puis nous accueillerons Angèle qui va elle aussi nous présenter une chronique, mais sur une théorie du complot, le Pizzagate. Par la suite, nous aurons la chance d'avoir avec nous Thomas Huchon, journaliste spécialiste des théories complotistes, qui sera interviewé par Anissa Eckert. Et puis pour finir, une dernière chronique sur l'affaire Cambridge Analytica présentée par Adèle.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Est-ce qu'une entreprise peut influencer notre démocratie ? Comment les théories du complot modifient-elles l'opinion publique ? Et comment notre inconscient façonne-t-il notre perception de la vérité ? Ce sont les questions que s'est posées la metteuse en scène Mélodie Moret dans sa pièce Big Mother, présentée au Théâtre de l'Avant-Scène à Colombes le 26 septembre dernier. La pièce nous plonge dans l'atmosphère tendue des élections présidentielles américaines. Quatre journalistes du New York Investigation, spécialisés en politique, mènent une enquête. Leur objectif ? Découvrir un complot visant à installer un régime ultra-démocratique, mais très vite, la vérité se dévoile. Ce régime cache des ambitions autoritaires et se rapproche d'une dictature masquée. Big Mother va au-delà du simple suspense. Elle interroge notre rapport à l'information et comment les théories du complot exploitent nos biais mentaux. La pièce montre que la peur, le besoin de contrôle et la méfiance envers les élites ouvrent la porte à ces récits. Ces théories manipulent l'opinion publique et nous poussent à réfléchir sur leur influence sur nos choix politiques. En fin de compte, elles fragilisent la démocratie. Avec une mise en scène sobre mais percutante, Mélodie Moret nous pousse à réfléchir. À quel moment cessons-nous d'être des citoyens libres ?
Merci pour cette intéressante chronique. Nous accueillons maintenant avec nous Angèle. Bonjour Angèle.
Bonjour. La théorie du complot, ce n'est pas nouveau, mais avec Internet, elles explosent à une vitesse folle. Connaissez-vous l'histoire du Pizzagate ? Tout commence en 2016 durant la campagne présidentielle américaine opposant Hillary Clinton et Donald Trump. Des emails de John Podesta, un proche de Hillary Clinton, sont piratés et publiés par Wikileaks. Des internautes sur des forums commencent ensuite à analyser ces mails et selon eux, des mots anodins comme « pizza » ou « sauce » seraient en réalité des codes pour désigner un réseau pédophile dirigé par des élites politiques opérant depuis une pizzeria de Washington. Cette théorie totalement infondée a pris une ampleur incroyable. Le problème, c'est qu'elle n'est pas restée confinée à Internet. Et oui, un homme persuadé de l'existence de ce réseau s'est rendu dans une pizzeria pour, entre guillemets, enquêter en tirant sur la pizzeria. Heureusement, il n'a blessé personne, mais cet événement montre malgré tout comment une simple rumeur peut se transformer en une menace réelle. Mais alors, que faut-il faire pour fuir la désinformation ? Il est déjà important de vérifier ses sources et reconnaître les manipulations, mais surtout d'avoir un esprit critique et de ne pas s'isoler.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. We'll be right back.
C'était Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Bien, nous accueillons maintenant Thomas Huchon et nos deux élèves Anissa et Kert. Bonjour.
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 Bonjour et bienvenue dans notre interview. Je suis Kert du lycée Albert Camus, je suis accompagnée de Anissa, ma collègue. Nous allons interviewer le journaliste, auteur, réalisateur Thomas Huchon, spécialiste des théories complotistes, qui est au téléphone avec nous.
Bonjour Monsieur Huchon. Quelles sont les théories du complot les plus courantes aujourd'hui et pourquoi ?
C'est difficile de répondre comme ça. Grosso modo, la principale idée, c'est qu'il y aurait une petite poignée de gens qui dirigeraient un peu le monde en secret sans qu'on le sache et que les médias seraient complices de tout ça. Après, il y a plein d'autres choses, notamment l'idée que le réchauffement climatique, ça ne serait pas complètement vrai et que ça ne serait pas tant la faute de l'homme que ça. On voit passer tout un tas de trucs par exemple, les Simpsons, le dessin animé des Simpsons, qui arrive à prédire l'avenir, parce qu'en réalité, ils savent ce qui va se passer, ou encore, plus simplement, la Terre est plate, où les reptiliens gouvernent le monde en secret. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près autant de théories du complot qu'il existe de croyances dans le monde, et donc il n'y a pas vraiment de limite à tout ça.
Très intéressant. J'aimerais savoir, selon vous, quel est l'impact de ces théories sur la société et le débat public, et si vous auriez des exemples.
Le premier problème, j'ai récemment fait un débat qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux dans un média qui s'appelle Le Crayon, où je suis face à une autre journaliste qui dit « mais quel problème y aurait à ce que les gens pensent que la Terre est plate ?» Le problème, ce n'est pas par exemple que les gens pensent que la Terre est plate, c'est qu'ils pensent qu'on leur ment sur le fait que la Terre est ronde. En fait, le problème de ces récits, c'est pas tant ce qu'ils nous disent que ce qu'ils suggèrent qui nous pose problème. En gros, quand on commence à tomber dans ces croyances-là, on imagine que le monde est totalement pourri et que y a toujours quelque chose qui est caché, qui est horrible, qui est dégueulasse. Quand on vit comme ça, on vit dans une forme de paranoïa. Et ça, c'est très inquiétant. Le deuxième problème, c'est que, comme le disait Voltaire à l'époque, ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Dans l'histoire, notamment l'histoire récente, au XXe siècle, les théories du complot, en tout cas les théories du complot raciste, ont été utilisées par des dictatures afin de commettre des crimes absolument abominables. S'il n'y a pas l'idée que les juifs gouvernent le monde en secret, eh ben, il n'y a pas le parti nazi qui, avec Hitler, organise l'extermination de millions de juifs dans des camps. Donc ça peut aller jusqu'à des conséquences extrêmement graves.
Nous aimerions aussi savoir comment distinguer une théorie du complot d'une théorie basée sur des faits avérés.
Et bah, en général, les théories du complot, elles ne démontrent rien. C'est-à-dire qu'elles créent l'illusion d'une démonstration avec une technique qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Le millefeuille argumentatif, c'est comme un millefeuille, le gâteau, là, qui est assez bon d'ailleurs. Bah, en fait, on pose les uns derrière les autres, tout un tas d'arguments, tout un tas d'éléments qui vont vous donner l'illusion qu'il y a une cohérence à ce discours, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Les discours sérieux sont basés sur des faits et souvent, on vous permet de voir ces faits. On vous permet de vous faire votre propre opinion sur les choses. C'est beaucoup plus rare dans les théories du complot. Souvent, ça fonctionne un peu par l'absurde. Où ça fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit bah voilà, il n'y a pas de preuve de la manipulation, ah bah c'est donc la preuve que la manipulation a bien marché.
D'ailleurs, quel rôle les médias jouent-ils dans la diffusion des théories du complot ? Sont-ils responsables de leur amplification ?
Bah en fait, vous avez deux phénomènes en même temps. Vous avez un premier phénomène qu'on va qualifier d'infobésité. L'infobésité, c'est le fait qu'il y ait en permanence, tout le temps, des informations qui circulent. C'est les chaînes d'information continue, c'est les grands médias, c'est la course des journalistes professionnels pour aller chercher le scoop. Et en fait, tout ça, ça crée chez nous qui regardons les infos ce qu'on appelle de la fatigue informationnelle. Ça veut dire que on va se retrouver à ne plus vouloir d'informations. Et d'ailleurs, à ne plus vouloir d'informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Cette infobésité, elle crée les conditions pour faire ce qu'on appelle l'infodémie. L'infodémie, c'est un mot qui a été inventé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour qualifier le fait que les fausses informations en matière de santé sont parfois plus dangereuses que les virus eux-mêmes. Et donc, si vous voyez passer des fausses informations, par exemple, sur une manière miracle de vous soigner, et que tout ça est faux, et ben vous allez probablement vous rendre encore plus malade, peut-être même mourir à cause de cette maladie, parce que vous ne seriez pas soigné correctement. Donc là, vous voyez qu'on a deux phénomènes en même temps, l'infobésité et l'infodémie, dans lesquels l'infobésité, c'est un peu la faute des grands médias professionnels, mais pas seulement. Par contre, l'infodémie, ça n'existe pas dans les grands médias professionnels. En tout cas, ça ne devrait pas exister. Il se trouve qu'on est, depuis quelques années, dans une situation un peu bizarre en France, puisqu'on a, parmi les grands médias professionnels, des médias qui ont été rachetés par un milliardaire qui a des ambitions politiques, qui est Vincent Bolloré, et que ces médias, CNews, C8, Europe 1, le JDD, eh bien, diffusent, eux, des théories du complot. Et donc là, ces médias-là ont un rôle d'amplification absolument maximal sur ces sujets. Et donc, ça nous pose un énorme problème. Dans l'immense majorité des cas, à l'exception de l'Empire Bolloré, les grands médias professionnels ne diffusent pas de fake news. Ça peut leur arriver de diffuser une fausse information, mais quand ils diffusent une fausse information, c'est une erreur. Vous avez remarqué que j'ai fait une différence entre fake news et fausse information, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et que si on traduit fake news par fausse information, on oublie un élément important. Les fausses infos, ce n'est pas volontaire. C'est une erreur. Donc on peut se tromper et diffuser quelque chose qui n'est pas vrai. Et souvent, on s'excuse de l'avoir fait, on corrige derrière. Les fake news, c'est volontaire. C'est une intention de manipuler. C'est un peu la différence entre le faux sac Vuitton que vous avez acheté 2$ sur un marché, ou le fake sac Vuitton que vous avez payé 3000 en pensant que c'était un vrai, mais à la fin c'est un faux. Et ben en fait, les fake news et les fausses infos, c'est un peu ça.
Et donc, comment pensez-vous qu'on peut repérer les fausses théories et les fake news ? Et quels conseils donnerez-vous pour lutter justement contre ces dernières ?
Bah, le principal conseil, c'est de se méfier un peu de nos propres préjugés. Souvent, ce qui fait qu'on va basculer dans une théorie du complot ou dans une fausse information, c'est qu'on y croit un petit peu nous-mêmes. C'est-à-dire que ça marche d'autant plus qu'on y croit un peu nous-mêmes. Donc là, c'est un peu nous qui sommes non pas responsables, mais qui avons une part de responsabilité là-dedans. Donc il faut penser contre soi-même, se méfier de ce qu'on a envie de croire, et puis en réalité, dans un monde où tout le monde veut pouvoir diffuser de l'information, bah, je crois qu'il faut que tout le monde apprenne un peu à vérifier des infos. Donc il faut jouer un peu aux journalistes. Donc il faut vérifier, il faut regarder la source, la personne qui parle, la date à laquelle ça a été publié. Il faut se poser un certain nombre de petites questions. On peut se servir de médias qui font du fact-checking, donc de la vérification d'informations, pour aller voir si, par exemple, ils parlent d'un sujet ou d'un autre. Moi, j'ai créé un média qui s'appelle Anti-Fake News sur Instagram et sur TikTok. Et justement, qui fait des vidéos pour déconstruire les théories du complot. Donc, si vous avez un doute sur un sujet, bah, vous pouvez aller voir sur Anti-Fake News AI. Et parmi tous les sujets qu'on a traités, il y a de fortes chances pour que celui sur lequel vous êtes tombé ait été débunké, comme on dit dans le jargon, donc déconstruit, et que vous puissiez trouver des éléments beaucoup plus fiables.
Merci beaucoup Thomas Huchon d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir pu être présent pour cette interview.
Bah, merci à vous, et bon courage, et surtout... continuer à bien travailler et à poser des questions. Hein, l'une des meilleures manières d'éviter les pièges, c'est plutôt de poser des questions que de donner des réponses.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci à vous tous. Au revoir.
Merci d'avoir été avec nous. Bonjour Adèle, c'est à vous, on vous écoute.
Bonjour. Les élections présidentielles américaines récentes qui ont opposé Kamala Harris et Donald Trump nous poussent à nous replonger dans l'affaire Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, qu'est-ce que c'est ? C'est une société britannique de nouvelles technologies qui a été fondée en 2013. Cette entreprise est spécialisée dans l'analyse de données et le conseil en communication. Elle a de nombreux clients, et en particulier parmi les ministères de la Défense anglais et américain. L'un des fondateurs de Cambridge Analytica est Steve Bannon. Il est ancien conseiller du président des États-Unis, Donald Trump. Mais la société appartient en grande partie à la famille de Robert Mercer, un célèbre homme d'affaires de Wall Street, également pionnier du trading algorithmique et le principal donateur du républicain Ted Cruz. Christopher Willey est le lanceur d'alerte et a conçu la partie technologie de l'entreprise et la présente comme « la machine à retourner le cerveau de la guerre psychologique de Steve Bannon ».
Et donc, de quoi Cambridge Analytica est-elle accusée ?
La société a utilisé des données de 30 à 70 millions d'utilisateurs de Facebook qui ont été collectées sans consentement en passant par un quiz qui a été développé par Alexandre Kogan, un professeur de psychologie. Les données ont été récoltées dans l'ignorance totale des utilisateurs et en présentant cela comme un simple exercice académique. La société Cambridge Analytica a mis au point des profils psychologiques qui allaient être utilisés par Donald Trump pour favoriser sa campagne. Par exemple, la diffusion de désinformation, l'espionnage des opposants politiques et la corruption pour manipuler le plus de monde possible. La société a étendu sa recherche à tous les amis des utilisateurs ayant fait le test et toujours sans leur consentement.
Mais donc, quelle a été la réaction de Facebook face à ce scandale ?
Suite à ce scandale mondial, Facebook a dû renforcer ses politiques de confidentialité et de sécurité de données. De plus, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été convoqué devant le Congrès américain pour témoigner. Cette affaire a également conduit à des enquêtes et à des amendes, ainsi qu'à une perte de confiance des utilisateurs envers Facebook, devenu Meta aujourd'hui.
Merci. C'est avec cette magnifique chronique que l'émission Les Petits Camus prend fin. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et un grand merci à nos chroniqueuses Adèle, Angèle et Irène, ainsi qu'à nos intervieweuses Kert et Anissa et leur invité Thomas Huchon. Et enfin, un grand merci à notre réalisatrice Léna.